La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le quatrième épisode de notre série consacrée cette semaine à la naissance en Grèce de la démocratie. Les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre cette semaine avec l'historien Vincent Azoulay, spécialiste de la Grèce antique. Dans l'épisode précédent, nous avons rappelé que dans la démocratie athénienne, la citoyenneté ne concerne que 10% de la population. En sont exclus les femmes, les étrangers et les esclaves. Et le stratège, quel rôle joue-t-il? Du 5e siècle avant Jésus-Christ, on dit qu'il fut en Grèce l'âge d'or de la démocratie athénienne ou bien le siècle de Périclès. Périclès, issu d'une famille noble et une des plus riches, est considéré après Clisthène comme le père de la démocratie athénienne, celui qui, malgré son origine sociale, s'est attaché toute sa vie à limiter les pouvoirs de la vieille assemblée aristocratique, l'aréopage, et au contraire, à renforcer les institutions démocratiques. Plusieurs fois élu et réélu stratège, c'est à son initiative que la démocratie a été étendue à l'ensemble des citoyens et qu'a été créé le mistos, l'indemnité qui permet aux plus pauvres de participer à la vie civique. C'est grâce à lui aussi que les jurés des tribunaux ont été rétribués afin que les citoyens les plus pauvres puissent participer au procès sans perdre le gain d'une journée de travail. C'est à son initiative aussi que l'on doit la conception et la construction par le sculpteur architecte Phidias d'un des plus beaux monuments du monde, le Parthénon, le temple en marbre consacré sur l'acropole à Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse et protectrice de la cité. Périclès, qui s'est imposé comme maître incontesté d'Athènes pendant plus de 30 ans, reste au pouvoir presque sans interruption jusqu'à sa mort en 429 avant Jésus-Christ, emporté par une épidémie.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Mais Périclès est controversé à Athènes. Certains poètes le ridiculisent ou l'accusent d'être tyrannique. Platon ne voit en lui qu'un dangereux démagogue incapable d'élever ses propres enfants. Au contraire, Aristophane qualifie Périclès d'Olympien. Diodore de Sicile affirme qu'il surpassait tous ses concitoyens dans les compétences de l'éloquence, tonnant, éclairant et passionnant la Grèce. Tandis que Thucydide, l'historien, voit en lui l'incarnation parfaite de l'homme d'action et du grand orateur. Du talent oratoire et de la voix, il en faut en effet quand Périclès doit monter à la Pnyx et en plein vent convaincre les 6000 citoyens de l'Ecclésia, qui ne s'en laissent pas compter, d'adopter ses propositions. Mais comment les Athéniens, si farouchement attachés à leurs prérogatives de citoyens, arrivent-ils à concilier leur exigence démocratique et la présence, pendant plus de 30 ans, de ce stratège, hors norme certes, qui pourrait être tenté par la démagogie ou la tyrannie? Une ambiguïté qui n'a pas échappé à son contemporain, Thucydide.
Périclès avait de l'influence en raison de la considération qui l'entourait et de la profondeur de son intelligence. Il était d'un désintéressement absolu. Sans s'attenter à la liberté, il contenait la multitude qu'il menait. N'ayant acquis son influence que par des moyens honnêtes, il n'avait pas à flatter la foule. Grâce à son autorité personnelle, il pouvait lui tenir tête et même lui montrer son irritation. Chaque fois que les Athéniens s'abandonnaient à l'audace et à l'orgueil, il les frappait de crainte. S'il s'effrayait sans motif, il les ramenait à la confiance.
Et Thucydide termine ce passage par un véritable couperet.
Ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme.
Vincent Azoulay, avant d'aborder cette question donc soulevée par Thucydide, de savoir qui des citoyens ou de Périclès manipulait l'autre, si c'est le cas, dites-nous, si vous voulez bien, ce que l'on sait de ce personnage qui est resté au cours des siècles, donc le grand homme, le héros du siècle d'or d'Athènes. Qu'est-ce qu'on sait de lui? De son physique d'abord, on sait quelque chose?
Alors, on dit qu'il avait une particularité physique, il était dolicocéphale, il avait un crâne particulièrement gros, mais c'était surtout une blague pour le rapprocher
pour le
de Zeus. Pour le moquer, parce que être rapproché de Zeus, être qualifié d'Olympien, c'est pas quelque chose, une épithète louangeuse. C'est être comme un dieu, voire le roi des dieux, et un roi des dieux qui, sur la scène théâtrale athénienne, c'est aussi ça la démocratie, et moqué également. Zeus est vu comme un tyran n'en faisant qu'à son gré, violent forçant les femmes et les hommes. Et donc, être qualifié d'Olympien, ce n'est pas une qualité.
Ah, je pensais que c'était une qualité. Ouais.
Eh bien, non.
Et tout le monde ne pense pas ça.
Tout le monde ne pense pas ça. Périclès est également admiré, mais c'est vrai qu'il est contesté et que Thucydide, ce grand historien, et oublie tout à fait volontairement de dire que Périclès n'était que l'un des stratèges. Il y en avait 10 qui étaient élus chaque année.
En même temps que lui ? Non.
En même temps que lui.
Ah, en même temps que lui,
bien sûr.
Ouais.
Toujours, toujours 10 stratèges, et Périclès doit composer. Il doit composer avec ses collègues, il doit composer avec le peuple, il doit composer avec la menace de procès, et il a été condamné, il doit composer avec la menace de l'ostracisme.
Dites-nous ce qu'est l'ostracisme.
Alors l'ostracisme, c'est une des mesures inventées par Clisthène, une mesure protectrice du régime. C'est l'idée que la tyrannie ne doit pas revenir. Et donc un citoyen que l'on juge trop éminent, sans qu'il ait commis la moindre faute, peut être exilé pour 10 ans. Et c'est tous les ans que les Athéniens se demandent si cette année, nous allons exiler collectivement un homme juste parce qu'on a peur du pouvoir qu'il pourrait posséder. Et Périclès a été lui-même sous
menacé
la menace
d'ostracisme.
Tout à fait. Alors c'est son rival qui en a été frappé en 443 avant Jésus-Christ, mais on voit très bien dans les témoignages que le boulet n'est pas passé si loin de la tête de Périclès et qu'il a dû batailler ferme. Donc il ne faut pas imaginer un homme souverain manipulant la foule, c'est un homme sous tension. Et c'est un stratège réélu à de très nombreuses reprises, mais qui à chaque fois doit faire ses preuves.
Et oui, il remet son titre en jeu.
Il remet son titre en jeu chaque année et il n'aurait jamais pu exercer de l'influence si le peuple n'avait pas jugé que les politiques qu'il proposait n'étaient pas conformes à ses propres intérêts.
Donc Thucydide, à vos yeux, se trompe quand il dit ce gouvernement portait le nom de démocratie. En réalité, c'était le gouvernement d'un seul homme.
Oui, ça revient à dire que la
c'était
démocratie...
C'était un tyran, que la démocratie, ce n'est rien.
Que la démocratie est une fiction.
Il nous fait du Platon, là.
Oui, et on voit bien aussi comment le qualificatif démocratique, au moment même où il naît, est tout de suite remis en cause. Comme aujourd'hui, on dit « vivons-nous encore en démocratie ?» C'est une question aussi vieille que la démocratie. Et Thucydide, de ce point de vue-là, est un aristocrate qui, exilé par le peuple, et qui n'est pas un démocrate, en tout cas pas un démocrate radical, de façon assurée. Et cette manière, comme ça, d'extraire Périclès et d'en faire quasiment un souverain d'une foule manipulée, mais pour son bien, c'est un mécanisme d'infantilisation qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant.
Il dit, Thucydide, qu'il est à la fois un homme d'action et un grand orateur. Ce sont deux qualités nécessaires pour être stratège à Athènes.
Oui, tout à fait. Le stratège, c'est celui qui conduit l'armée. Donc, pas tout seul, hein, ils sont 10. Donc, effectivement, c'est un homme d'action. Et il a été victorieux, plus qu'à son tour. Il a élevé de nombreux trophées sur les ennemis. C'était peut-être pas un immense général, mais il savait y faire. Mais c'est vrai que l'autre pilier de la puissance de Périclès, c'est la parole. Et là, tous les contemporains sont unanimes. Il a une capacité oratoire absolument hors du commun. Il a une capacité à même ensorceler la foule. Et on emploie le vocabulaire de la magie pour le critiquer. Hein, il plante son dard dans l'oreille des auditeurs et à la fois les endort et les énerve.
C'est à Périclès que l'on doit la guerre impérialiste d'Athènes.
Alors, on lui doit surtout la stratégie d'Athènes qui lui permet de faire face à la guerre. On ne lui doit pas, à proprement parler, la stratégie impérialiste d'Athènes, elle remonte avant lui. En réalité, les Athéniens ont construit leur démocratie en même temps qu'ils ont bâti une forme d'impérialisme, dans le cadre de ce qu'on appelle la Ligue de Délos, qui se construit après les guerres médiques, en 490-480. Donc, il est héritier d'une certaine façon, d'une politique impériale, mais qu'il va mener, poursuivre, voire approfondir avec parfois une certaine cruauté. Il a réprimé les révoltes des alliés dans le sang, et sans aucun état d'âme. Et d'une certaine façon, le Parthénon en est l'incarnation.
Pourquoi ?
Parce que le Parthénon a été construit en partie sur le tribut qui était prélevé sur les alliés sujets d'Athènes dans le cadre de la Ligue de Délos, qui en principe devait servir à combattre l'Empire perse. Donc le Parthénon est le produit en partie, pas entièrement, mais du tribut prélevé sur les alliés. Et en plus, après son achèvement en 438, il va accueillir le trésor de la Ligue. Ce qui en fait vraiment le symbole au carré, d'une certaine façon, de l'impérialisme athénien.
Périclès a été aussi critiqué pour sa compagne, Aspasie, qui était une femme d'origine métèque, qui était mal vue.
Oui, tout à fait. Souvent, chercher la femme, quand on veut critiquer l'homme, on dit qu'en réalité, le grand homme n'est qu'un pantin manipulé par une femme dans l'ombre. C'est ce que aussi fait croire Platon dans le Ménexène. Et cette Aspasie, effectivement, vient de Milet, très certainement fait partie d'une grande famille, et elle est assez inclassable aux yeux des Athéniens, qui en font tantôt une prostituée, tantôt une courtisane, tantôt simplement une femme libre, mais une liberté qui est toujours décriée, notamment par les poètes comiques. Ce qui est sûr, c'est que Périclès en était fort amoureux, puisqu'il avait une première femme, mais qu'il a répudiée pour pouvoir être avec cette Aspasie. De là à en faire, comme les auteurs comiques, la cause de du déclenchement de la guerre du Péloponnèse, sur le modèle d'Hélène de Troie, c'est bien sûr une exagération qui vise en réalité à délégitimer Périclès.
Merci Vincent Azoulay. Dans le prochain et dernier épisode, nous parlerons de la fin de la démocratie athénienne et de sa postérité jusqu'à nous.